Bonjour Pat.
Allô.
Alors merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Alors on va prendre le temps aujourd'hui, comme enfin il y a la possibilité de se parler sans conditions, juges et autres problèmes juridiques, de faire un bon retour sur ce G20 donc, qui avait lieu en juin 2010 à Toronto, les mobilisations vers le G20, puis tout le délire juridique depuis. Mm-hmm. Fait que peut-être pour commencer, si tu pouvais nous faire un petit rappel général des mobilisations organisées par la CLAQ pour juin 2010, puis de la situation autour du G20, puis ce.
OK. Je pense que ça commence quelque part en décembre 2009, où on a appris en fait que. On savait depuis plusieurs années en fait déjà que le G8 allait se tenir au Canada en 2010, mais. Bon, étant donné la crise en 2008, la crise économique, il y a eu une décision qui a été de faire le G20, de faire un sommet du G20 aussi en 2010 au Canada. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que la nouvelle est sortie quelque part en novembre ou décembre 2009. À partir de ce moment-là, il y a eu un espèce de branle-bas de combat un peu partout là, en Ontario, au Québec, là, pour essayer de se recollecter, de se mobiliser. Puis en plus, on avait appris que le sommet du G20 allait avoir lieu au centre-ville de Toronto en juin 2010. Pendant un week-end. Alors, toutes les conditions étaient réunies là, pour faire une belle mobilisation populaire contre le sommet du G20. Et puis, donc, à cette occasion-là que la CLAQ s'est reformée. La CLAQ avait été constituée là, avant le sommet des Amériques de Québec en 2001. Pour à peu près les mêmes raisons, soit une mobilisation populaire là, contre le sommet des Amériques. Et puis, bon, à cette occasion-là, début 2010, ben, la CLAQ s'est reformée un peu de façon ad hoc. Donc, on parle d'une coalition là, de plusieurs groupes populaires, de collectifs militants, etc., qui étaient, bon, qui s'attendaient sur la nécessité de mobiliser contre le sommet du G20. Et puis, dès ce moment-là, ben, on a commencé à Montréal là, à faire plusieurs initiatives d'éducation populaire, d'organiser le transport. Vers Toronto, d'organiser le logement, ce genre d'éléments logistiques. Puis aussi de brasser, de faire l'agitation, là, comme je disais, de l'éducation populaire. Donc, il y a eu plusieurs ateliers qui ont été donnés dans plusieurs quartiers là, de Montréal. Et puis, un journal qui a été... publié, rassemblé, puis distribué là, dans les mois avant le sommet. Et puis tout ça aussi, ce travail-là se faisait en parallèle avec la mobilisation qui était organisée à Toronto, puis ailleurs en Ontario. Donc il y avait le Toronto Community Mobilization Network, qui est une espèce d'organisation parapluie à Toronto, qui s'assurait de la logistique, s'assurait de créer de l'espace pour la résistance, pour les mobilisations. Et puis parallèlement à ça également, il y a le Southern Ontario Anarchist Resistance, qui était donc une espèce de coalition informelle aussi qui était implantée là, dans le sud de l'Ontario parmi toute la nébuleuse du réseau anarchiste là, du sud de l'Ontario. Donc la CLAQ, si on veut, on s'est rapproché là, de ces réseaux-là également pour essayer de coordonner nos activités.
Puis donc, tous ces groupes-là se sont joints aux mobilisations dans laquelle il y avait aussi syndicats, groupes communautaires, etc. Si on passe un peu en revue là, toute la semaine précédant le G20, puis pendant le G20, il y avait des mobilisations sur différents enjeux, là, pour en nommer quelques-uns là, des enjeux pour lesquels les gens se sont mobilisés massivement.
Bien, il y avait justice pour les migrants et migrantes. Bon, la semaine d'avant a été divisée, donc chaque journée avait été thématique. Il y avait justice environnementale, justice pour les migrants et migrantes, justice pour les luttes ou solidarité avec les luttes autochtones. Bon, les autres m'échappent, là, mais donc il y a eu une grosse semaine de mobilisation, il y avait des manifestations, toutes sortes d'activités. Il y a eu aussi tu parlais là, des ONG ou des groupes syndicaux qui, eux, se sont concentrés beaucoup sur l'aspect ONG, l'aspect communautaire des choses. Il y a eu ce qu'on appelle un sommet des peuples qui a été organisé juste un petit peu avant si je ne me trompe pas, c'est le week-end avant ou en tout cas dans la semaine avant le sommet du G20 comme tel. Donc, on parle quand même d'une mobilisation majeure. Puis, les groupes syndicaux, donc le Congrès du travail canadien, avaient organisé une grosse manifestation pour le samedi le 26 juin 2010. Et c'est dur de calculer, là, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont joints à cette mobilisation-là. Et dans le cadre de ça, ou un peu en parallèle, il y avait des critiques qui étaient formulées là, par les collectifs plus radicaux, dont la CLAC, dont le Southern Ontario Anarchist Resistance, que, dans le fond, cette mobilisation-là était un peu conciliante avec le pouvoir. Donc, il était question, en fait, d'une marche au centre-ville de Toronto, mais sans aucune forme de confrontation ou de résistance. Il était question de tourner en rond, de partir d'un point qui était le Parlement là, de l'Ontario, le Queen's Park, et puis de marcher, et puis de tourner en rond, puis de revenir au même point pour écouter des discours. Alors, ce à quoi, nous, on s'opposait, on pensait à la CLAC, puis Southern Ontario Anarchist Resistance, puis les radicaux en général, que cette forme de manifestation-là est trop symbolique, là, trop inefficace. Donc, il y a eu, dans le cadre de Southern Ontario Anarchist Resistance, une autre mobilisation qui était à caractère plus perturbatrice, plus confrontationnelle, auquel on a donné le nom de Get Off the Fence, qui est un jeu de mots un peu qui veut dire ben, choisissez votre côté, dans le fond, vous ne pouvez pas rester assis sur la clôture. Puis c'était aussi un jeu de mots là, qui faisait référence à la clôture de sécurité.
Puis toute la semaine, il y a eu des manifestations. Puis au fur et à mesure de la semaine, là, on a pu voir un durcissement là, des pratiques de la police. Mais dès les premières manifestations, il était interdit d'amener un bâton, les bannières se faisaient prendre, les drapeaux. Il a commencé à y avoir des arrestations le lundi ou le mardi. Juste quelques-unes, là, petit à petit, ça a comme grimpé, jusqu'au samedi matin, mm-hmm. où ce que là, samedi matin, les gens qui arrivaient à la manifestation apprennent que les personnes qui organisaient la manifestation Get Off the Fence, puis d'autres choses dans la fin de semaine, avaient été... arrêter dans leur sommeil ou en direction de leur café. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce climat qui s'est installé en termes répressifs?
Oui, il ne faut pas oublier qu'il y avait... On parle là maintenant d'entre 700 millions et 800 millions de dollars qui ont été investis pour la sécurité des deux sommets. Du sommet du G8 qui s'est tenu dans la campagne, là, dans le bois, dans le nord de l'Ontario, et le sommet du G20 qui est arrivé juste après, donc le 26 et le 27, le 26 et le 27 juin 2010. Donc, on parle aussi de quelques 20 000 agents de police ou de sécurité. Il y avait aussi des soldats de l'armée canadienne qui étaient mobilisés à Toronto. Donc, on parle d'un appareil répressif, un appareil, ce qu'ils appellent un appareil de sécurité, mais on parle, nous, d'un appareil répressif pratiquement du jamais vu au Canada, là. Moi, j'en ai vu plusieurs mobilisations, plusieurs manifestations. Puis ça, le degré d'état policier qu'on a connu ce week-end-là, entre le 25 et le 27 à Toronto, c'est pas mal du jamais vu. On parle aussi d'ailleurs de au-dessus de 1100 arrestations. On parle au-dessus de 300 accusations. Donc, oui, il régnait à ce moment-là, le 25 et le 26, puis le 27, il régnait un esprit de terreur, littéralement, là, au centre-ville de Toronto. Et tout ça, un élément de ça, un élément important de ça, c'est les accusations de complot qui ont été portées contre initialement une vingtaine de militants, d'organisateurs du sud de l'Ontario et quelques-uns du Québec également, dont moi. Et puis, c'est ça, il y a eu des arrestations préventives. Donc, dans la nuit du 25 au 26, la police est allée chercher un mandat auprès d'un juge, un mandat d'arrestation, ou plusieurs mandats d'arrestation, en fait, pour arrêter les organisateurs. Comment ils ont été capables d'identifier les organisateurs, organisatrices de Southern Ontario Anarchist Resistance? Eh bien, il y a eu une opération d'infiltration qui avait commencé là presque 2 ans plus tôt. Donc, 2 agents de la police provinciale de l'Ontario qui avaient réussi à infiltrer les réseaux militants anarchistes du sud de l'Ontario. Mais c'était ça, une opération de sécurité intégrée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la police provinciale de l'Ontario, mais aussi on parle de la GRC, on parle de la participation du Service canadien de renseignement de sécurité, plusieurs corps de police du sud de l'Ontario, donc de Toronto, de Hamilton, d'Ottawa, faisaient partie de cette opération-là majeure de surveillance et d'infiltration des réseaux anarchistes. Mais pas seulement les réseaux anarchistes, on parle aussi d'infiltration des réseaux de solidarité avec les luttes autochtones, de solidarité pour la justice migrante. Donc là, on commence à voir où sont allés ces 600 millions, 700 millions de dollars. C'est une opération majeure. Et dans ce cadre-là, ben c'est ça, il y a eu l'arrestation d'une vingtaine d'organisateurs. Et ce qui est un peu inédit, c'est justement le recours à des accusations de complot. Donc, on nous a accusés d'avoir, grosso modo, là, ourdi ou organisé les perturbations. Et dans le fond, ce dont on nous a accusé, c'est complot dans le but de commettre des voies de fait sur les agents de police, dans le but de obstruction ou entrave au travail de la police. Et complot dans le but de commettre des méfaits de plus que 5 000 $.
Puis dans le fond, de ces accusations-là, on pourra revenir sur les autres aspects de cette répression. Puis comme tu le disais, il y a eu près de 1 100 arrestations, mais à peine 300 accusations. Puis aujourd'hui, ça a encore diminué. Mais mettons sur l'aspect du processus de judiciaire là, de complot, on a vu donc pendant des mois, puis ça vient à peine de prendre fin, l'information arriver de plus en plus. Donc sur cette fameuse opération de 2 ans avec 2 infiltrés principaux, etc. Qu'est-ce qu'on a appris, découvert sur cette stratégie-là, puis c'est quoi ses impacts un peu sur le mouvement puis la criminalisation?
Mais en fait, la leçon première qu'il faut retenir, c'est que l'État est prêt à recourir à toutes sortes de trucs. Il y a rien qui est au-delà de ce qu'ils sont prêts à faire pour perturber l'organisation anticapitaliste, pour criminaliser aussi l'organisation anticapitaliste. Puis le recours aux accusations de complot, c'est des accusations sérieuses, donc qui justifient, pour commencer, des conditions de libération qui sont super restrictives. Donc, on parle d'assignation à domicile. Personnellement, je suis resté 11 mois assigné à domicile. On parle aussi des montants de caution qui sont exorbitants, donc qui, dans le fond, qui imposent des contraintes importantes sur les réseaux de soutien militant. Alors, on parle, dans mon cas, c'était 12 000 $ cash, mais il fallait aussi mettre, je me souviens bien, 37 000 $ en garantie, de propriété en garantie. Il faut aussi trouver des garants de caution, des garantes de caution, des personnes qui ont justement ces ressources-là qui peuvent mettre en garantie. À part de ça, dans les conditions, mais là, il y a conditions de non-association, donc j'avais pas le droit de communiquer, de voir, de parler ou de m'associer d'aucune façon avec mes co-accusés. Et puis, dans le cas des personnes de mes co-accusés en Ontario, ils n'avaient pas le droit non plus de s'associer avec des personnes qui sont raisonnablement connues comme étant associées avec des groupes comme AWOL, des groupes qui ont été identifiés là, pendant l'enquête. Donc, pour ces gens-là, ça a vraiment rompu des liens, ça a vraiment brisé, si on veut, les réseaux militants. Ce qui est une autre façon de nuire à l'organisation anticapitaliste. On parle aussi de la condition de ce qu'on appelle no protest ou no demo, c'est-à-dire l'interdiction de participer à une manifestation publique ou de participer à l'organisation d'une manifestation publique. Alors ça, c'est des conditions qui dans les faits nuisent énormément à notre capacité de nous organiser ou même de se défendre. C'est-à-dire d'organiser notre défense là, dans le cadre de nos réseaux, avec l'aide de nos réseaux. Et donc ça, c'est clairement, là, ça fait partie d'une stratégie de l'État qui, dans le but de vraiment de nuire et puis de criminaliser l'organisation anticapitaliste, tout simplement. Et puis, c'est ça ce qui est arrivé, c'est que l'enquête préliminaire, dans le cas des personnes, je disais une vingtaine de personnes, mais ce nombre-là est tombé à 17. Donc, l'enquête préliminaire pour les 17 personnes qui étaient accusées de complot a commencé le 12 septembre dernier. Et on a subi un peu le témoignage d'un des agents infiltrés. Et puis après une semaine, 2 semaines, il y a eu la possibilité de commencer à parler d'une négociation, d'une entente autour d'un plaidoyer de culpabilité. Et après plusieurs semaines, ça aboutit sur justement une entente où 6 des 17 accusés plaidaient coupables à une infraction mineure, c'est-à-dire à incitation ou avoir conseillé la commission d'un méfait. Et puis les 11 autres personnes ont vu leurs accusations retirées complètement. Donc, il n'y a aucune condamnation pour complot. Ce sont 6 condamnations pour incitation. Et puis les 11 autres voient leurs accusations retirées. Donc, les conditions tombent, etc. Et puis les gens sont libres de retourner à leur travail d'organisation normal. Mais pour répondre à ta question de ce qu'on les leçons qu'on doit tirer, ben moi je te dirais qu'une autre leçon, c'est il faut faire la culture de vigilance, ce qu'on appelle la culture de sécurité. C'est vraiment important. C'est pas à prendre à la légère, parce que c'est ça, je faisais une blague un peu la semaine dernière, c'est que la police c'est jamais, les policiers sont jamais nos amis, mais des fois il s'avère que certains de nos amis ou certains des amis de nos amis s'avèrent être des policiers. Alors c'est vraiment important là, de pas prendre ça à la légère. Et puis aussi, je pense une leçon, c'est que même si l'État est prêt à recourir à toutes sortes de trucs dégueulasses pour nous salir, pour criminaliser, pour nous nuire, c'est important de rester unis, de rester fort, puis de pas se laisser abattre par ce genre de mauvais trucs, parce qu'au bout du compte, par exemple dans ce cas-ci, étant suite à l'entente, ben je pense que c'est assez clair que c'est les ressources, c'est l'État qui s'est planté carrément, c'est-à-dire qu'ils ont investi tellement de ressources pour essayer d'empêcher de nuire, de subvertir, dans le fond, les mobilisations, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordements. Mais il y a eu des débordements qui n'ont jamais été capables de voir venir, malgré le fait qu'il y avait arrêté préalablement les soi-disant organisateurs. Les soi-disant, si on veut, leaders de ça, ce qui est en soi assez fallacieux. Mais les débordements, si on veut, ont eu lieu quand même. Donc, un des objectifs avoués du Southern Ontario Anarchist Resistance, c'était d'humilier l'appareil de sécurité. Et puis, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, ils ont dépensé toutes ces ressources-là et puis ils n'ont pas été en mesure d'arrêter la résistance. Et puis, un an et demi plus tard, bon, ils nous ont mis des bâtons dans les roues, mais nous, on en ressort plus fort. Et puis là, il y en a 6 qui s'en vont en prison, mais ce sera pas long qu'ils vont être de retour dans leur communauté à travailler aussi d'arrache-pied, puis d'autant plus fort. Donc, je pense que c'est vraiment l'État, puis c'est vraiment la couronne qui en ressort le plus, qui ont l'air le plus calme dans cette affaire-là.
Puis peut-être sur la notion là, de criminalisation, dans le fond, c'est de prendre des actes qui auparavant étaient... un des aspects de la criminalisation, c'est prendre des actes qui auparavant étaient légaux et les rendre illégaux. On ne saura jamais exactement le fin fond de l'histoire, puisqu'il n'y aura jamais une suite à ce procès judiciaire de complot, mais dans l'enquête préliminaire, on a peut-être pu en avoir des éléments. Qu'est-ce qui est criminalisé en tant que tel? Le fait d'organiser une manifestation, le fait d'organiser une manifestation en certains termes, quels étaient les enjeux autour du complot et aussi peut-être un peu aussi quels étaient les enjeux autour de l'incitation, qu'est-ce qui constitue une incitation ou pas au jour d'aujourd'hui selon ce qu'on a vu dans ce processus-là?
Mais dans le code criminel au Canada, l'accusation de complot, c'est un peu un terrain visqueux, c'est pas très clair en fait ce que constitue un complot. Par contre, pour la couronne, c'est un peu avantageux parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est de prouver que, disons, entre personne A et personne B, il y a une entente sur un projet criminel. Et que entre personne B et personne C, il y a une entente grosso modo, eh ben ça criminalise, ça fait en sorte que entre A et C, entre la personne A et la personne C, il y a une espèce de complot aussi. Donc c'est assez difficile de s'en dépêtrer. Par contre, ce qui arrive, c'est que ce que la couronne doit arriver à faire, c'est prouver justement qu'il y avait une entente sur une intention criminelle. Alors c'est là-dessus là qu'on avait qu'on pouvait nous défendre, parce que ce qu'ils essayaient de faire, donc, comme tu me le demandes, c'est de criminaliser la participation à des meetings d'organisation. Donc, le fait que toi et moi participons à un meeting où on parle du transport, par exemple, ou de l'hébergement, des choses comme ça, et qu'il y a d'autres personnes dans le meeting qui parlent qui sont un peu plus indiscrets, puis qui parlent de lancer des projectiles aux policiers, par exemple, ça ferait de nous des participants au complot dans la mesure où ils arrivent à prouver qu'il y avait une intention criminelle en arrière de ça. Donc, effectivement, c'est un peu difficile. Puis là, ce qui fait que s'il y avait une culpabilité, s'il y avait des condamnations au bout de ça, ce qui était criminalisé, c'était le simple fait de s'asseoir avec d'autres mondes, des gens que, personnellement, c'est des gens que je connaissais pas. Là. Moi, je suis un organisateur de Montréal et puis j'étais dépêché par mes camarades de Montréal pour aller chercher de l'information, voir ce qui se passait un peu. Donc, m'asseoir avec d'autres organisateurs du sud de l'Ontario, des gens que j'avais essentiellement jamais rencontrés. Et puis, parler de logistique, parler de, on part de où, on s'en va où, quels sont les risques, comment on évite les écueils, etc. Et le simple fait d'être assis là, ben je fais partie d'un complot dans l'œil de l'État. Alors, ce qui est un peu difficile à apprendre, si on veut. Mais on parle aussi de criminaliser le fait d'écrire des tracts, par exemple, ou d'animer des meetings. Donc, le simple fait d'être là ou de participer à une mobilisation, de près ou de loin, ça fait de vous un comploteur ou un conspirateur. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a accepté de faire prendre cette entente-là. C'est parce que là, le procès, ça arrivait pas bientôt, là. Ça arrivait dans un an, peut-être plus. Donc, pendant tout ce temps-là, on était empêtrés dans le processus judiciaire. Il y a des ressources de nos réseaux de soutien qui étaient empêtrés là-dedans aussi. Donc, le fait de prendre l'entente faisait en sorte qu'on s'en sortait considérablement plus vite. Et que ça faisait que bon, un bon nombre d'entre nous pouvaient retourner le plus tôt possible à leurs activités. Puis ne sachant pas comment allait effectivement se dérouler ce procès pour complot, étant donné la nature que je viens d'expliquer, la nature un peu ambiguë de ce que c'est qu'un complot, donc on s'est entendu assez vite sur le fait, ben assez vite c'est relatif, il y a eu quand même des semaines qui se sont passées avant qu'on en arrive à une entente qui nous satisfaisait.
Mais peut-être ce qu'on voit un petit peu aussi, c'est une judiciarisation de sphère qui serait comme plutôt politique, qui serait de discuter politique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'officiellement, on criminalise pas les idées. Officiellement, toutes les idées contenues dans les journaux de la claque, etc., sont supposées d'être légales. Mais dans la pratique, ce qu'on a vu au travers de ce processus-là, c'est en venir à criminaliser les idées, puisque c'est l'énoncé d'idées, l'énoncé du fait qu'il soit légitime ou non légitime de commettre un méfait, devient à ce moment-là un crime. Donc, c'est un peu la judiciarisation de l'expression politique des faits, puisque personne là-dedans est accusé d'avoir commis un méfait.
C'est ça. En fait, tout le monde était arrêté avant même qu'il y ait les soi-disant débordements au centre-ville de Toronto. Donc, effectivement, ce qui est criminalisé, c'est, par exemple, comme idée, c'est l'idée du respect de la diversité des tactiques. Et puis, les personnes doivent être... les personnes qui s'identifient à la résistance doivent être en mesure d'exercer cette résistance-là dans la façon que les personnes jugent légitime et justifiée. Donc, c'est vraiment ça, le respect de la diversité des tactiques. Puis, le simple fait d'adhérer à ce principe-là, à cette déclaration de principe-là, est judiciarisé et criminalisé. Donc, c'est vraiment ça. Puis ça, c'est une autre des leçons à retenir de ça, c'est que quand même dans la charte des droits et libertés au Canada, les opinions politiques sont protégées, mais dans les faits, l'État considère pas que toutes les opinions sont égales et sont prêts à judiciariser, à criminaliser certaines idées politiques.
Donc aujourd'hui, un an et demi plus tard, donc 6 personnes vont faire quelques mois de prison, moins de 1 an en général, ou moins de 2 ans en tout cas. Il reste à peine quelques procès à venir. Il y a eu quand même peu de condamnations, là, même sur toutes les autres procès. La plupart des charges, là, des gens du Québec qui ont été accusés sont retirées. Puis quand on dit que le mouvement continue, qu'est-ce que continue de faire la claque, de faire ces mouvements-là au jour le jour en ce moment par rapport au G20, mais aussi plus largement?
La claque, au cours des derniers mois, s'est beaucoup interrogée sur son avenir. Il y a eu une espèce de refondation là, des principes unificateurs de la claque. Entre autres, il y a l'organisation du premier mai anticapitaliste. Donc, ça va être une priorité là, pour les membres, les groupes membres puis les individus membres de la claque de se concentrer là-dessus. Et aussi beaucoup, dans la mesure du possible, de l'éducation populaire. Donc, il y a encore des journaux. Il y a deux journaux qui ont été faits depuis le sommet. Par la CLAQ. Puis une des priorités que s'était donné la CLAQ à sa reformation, c'était d'essayer de faire converger toutes les luttes, parce que depuis le sommet des Amériques, il y a plusieurs collectifs qui se sont formés, mais qui travaillent sur des enjeux plus comme la solidarité internationale, comme contre la guerre, contre le colonialisme ou pour la justice migrante, etc. Donc l'idée, ce serait l'idée de la claque, ce serait de faire un peu converger ces groupes-là, de faire en sorte que les groupes qui sont anticapitalistes ou qui se déclarent anticapitalistes travaillent un peu ensemble, tirent un peu dans la même direction contre les mesures d'austérité, là, par exemple, toujours dans l'idée de faire d'élargir des mouvements sociaux de résistance, des communautés de résistance.
Puis on peut d'ailleurs retrouver les anciens journaux et toutes les informations et mobilisations de la CLAQ sur Internet?
Oui, au site donc clac-montréal.net, donc clac-montréal.net. Puis il y a aussi, on va y trouver là, une déclaration commune là, des 17 accusés de complot, puis des déclarations aussi personnelles, parce qu'on a trois camarades qui recevaient leur sentence aujourd'hui, Adam Lewis, Eric Lankin et Peter Hopperton, qui sont trois des six là, qui ont plaidé coupable, qui commencent leur sentence d'emprisonnement aujourd'hui. Donc, on a notre pensée est avec eux, puis on va penser à eux pendant les trois prochains mois, cinq prochains mois.
Et on les retrouve dans la rue pour faire de l'organisation ensuite.
Plus fort que jamais.
Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Non. Fuck l'État.
Maintenant qu'on peut le dire.
Ben ouais, smash the state, abolish capitalisme. Je pense qu'on a du travail, on a du pain sur la planche. Puis la police, c'est jamais nos amis.
Mais parfois, nos amis sont dans la police.
C'est ça. Pour nos camarades d'occupants, là, la police, c'est jamais nos amis.